Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Et dans notre deuxième thème, nous parlerons de l'ouverture hier jeudi à Kinshasa, du tout premier forum économique international de Kinshasa. Le thème retenu pour cette première édition, croissance économique et gouvernance. Trois confrères participent à cette émission, Giscard Koussema, directeur général de la radio-télévision Canal Future, qui malheureusement n'aimait plus, cela fait plus de deux ans. Maintenant, Giscard, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous.
Harold Bellarmin Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Bellarmin.
Bonsoir Kelly, bonsoir aimable auditeur.
Et Baba Isaac Kalongi, journaliste indépendant, il intervient depuis Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental. Baba Isaac Kalongi, bonsoir.
Bonjour ma chère consoeur.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Hirung.
Bonsoir. Deux rendez-vous dominent les colonnes des journaux de Kinshasa ce vendredi. La publication officielle des futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale, mais aussi l'élection du nouveau gouverneur de la province de l'Équateur, remplaçant de Jean-Claude Baïndé, révoqué en mai dernier. Forum des As consacre dans sa seule édition de ce jour minimum trois articles. Et tous ces papiers sont formels. Les députés nationaux devraient confirmer les noms qui circulent depuis quelques jours dans les médias, à savoir Abbé Malumalu au numéro 1, André Mpungwe au numéro 2, Rémi Massamba au 3, Onésime Koukatoula au 4, Chantal Ngoy au 5 et enfin Micheline Bié au 6. Selon le Phare, présidence du bureau de la CENI, l'opposition révèle les dessous des cartes. Le suspense est tombé au sujet des noms des animateurs de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Mais la plénière prévue hier jeudi 6 juin 2013 pour la publication de la liste des délégués de toutes les composantes à cette institution d'appui à la démocratie a été de nouveau reporté pour ce vendredi 7 juin 2013 à l'Assemblée nationale après le raté de mardi dernier. Le potentiel quant à lui souligne, les 13 oiseaux rares de la CENI New Look sont déjà connus. La liste en circulation n'a provoqué que légèrement une tempête dans un verre d'eau. Au contraire, des analystes objectifs se réjouissent du profil de ces oiseaux rares. Pour ce qui est du deuxième sujet dominant des journaux ce matin, à savoir l'élection du nouveau gouverneur de l'Équateur, seul forum des As en parle ce jour. Dans son article intitulé « Pour une élection apaisée dans la province de l'Équateur », le gouverneur intérimaire Boufaya invite les candidats gouverneurs au discours d'unité et de paix. Le quotidien rapporte que René Sébastien Boufaya a insisté sur le fait que les candidats doivent inviter leurs partisans à observer les mêmes principes, la même voie du réalisme, du pragmatisme et de l'amour de la province de l'Équateur. Un autre sujet, c'est la reprise des pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Fait aussi la une de la presse quinoise. L'avenir titre, le M23 regagne Kampala, la reprise de pourparlers annoncée pour ce dimanche. Bertrand Bissimwa, chef politique du mouvement rebelle, affirme, pince sans rire, que cette prise de décision privilégie la piste politique prônée par Ban Ki-moon en vue de la pacification de l'Est. Concernant l'ouverture du Forum économique international à Kinshasa, la tempête des tropiques note que Kinshasa annonce une croissance à deux chiffres en 2014. Toujours sur le même sujet, le potentiel indique Matata expose sa vision d'un Congo qui se lève.
Merci Alain Hirung pour cette revue des presses jusqu'à Koussema. Vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Je l'ai dit qui malheureusement n'aimait plus, cela fait plus de deux ans. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier des Canal Futur?
Écoutez madame, nous avons toujours soutenu ici que le dossier Canal Futur a dû passer la sphère professionnelle pour prendre les allures d'une affaire d'État au regard de rebondissements. Et les tout derniers rebondissements, ce sont les déclarations du ministre qui gère le média sur vos antennes. Ce fut le 3 mai dernier, à la faveur de la journée de la liberté de la presse. Le ministre vient de déclarer sur vos antennes que le dossier n'était plus à son niveau et qu'il fallait attendre une épilogue judiciaire, comme pour dire que c'est la justice qui devra en décider. Nous avons parcouru toutes les juridictions de ce pays et nous le disons sans peur d'être contredit, que nous n'avons n'avons aucun dossier. Et il est donc clairement établi aujourd'hui qu'il y a une main noire, qu'il y a des individus qui veulent nous maintenir dans cette situation, mais nous persistons et signons. Canal Futur Télévision reste un média congolais et nous n'allons ménager aucun effort. Ça, c'est si l'on nous caricature comme cela, il n'y a aucun problème. Nous nous en réjouissons. Dans tous les cas, ce n'est pas un péché de se choisir une ligne éditoriale proche de l'opposition.
On a suivi la revue de presse d'Alain Héron où il y a plusieurs sujets. La CENI, les M23 qui demandent la reprise des pourparlers à Kampala. On a aussi la grève à la SNCC. Parlons de la CENI. Il y a des noms déjà qui circulent sur les nouveaux membres qui vont diriger cette CENI. Abbé Malumalu est cité comme étant président de la CENI. Il revient encore une fois à la tête de cette institution.
Oui, ce qui est drôle dans ces dossiers, c'est que le nom de l'abbé Malumalu était cité depuis une capitale étrangère et avant même que le processus de désignation ne commence. Donc il n'y a que dans ce pays où on peut connaître le nom de quelqu'un qui est censé être élu avant même l'organisation des élections, avant qu'il ne se porte candidat. Et donc on est dans cette espèce de faux suspense où on connaît déjà le nom. Et non seulement qu'on connaît les noms, mais on connaît même les postes. Alors qu'après cette désignation, on devrait procéder à une organisation interne pour qu'il y ait consensus ou vote des personnes. Alors lorsqu'on place la charrue devant le bœuf, j'ai l'impression qu'il y a déjà des germes des conflits, des crédibilités, alors qu'on pensait corriger les erreurs du passé, mais nous nous retrouvons pratiquement dans une espèce de suspense qui, en réalité, n'a plus d'importance.
Harold Bellarmé Mbadivanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, l'abbé Malumalu revient à la tête de la CENI. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de nouveau avec cette nouvelle équipe de la CENI?
Il se pose un problème. Nous devons d'abord être sérieux avec nous-mêmes quand j'entends jusqu'à Kousséma dire que il n'y a que dans ce pays où les noms des gens doivent être connus. C'est comme si ces noms sont dictés par un individu quelque part, comme si ce ne sont pas des plateformes de la société civile dans lesquelles on a impliqué l'Église catholique et consort pour arriver à donner ces gens. Alors, je ne sais pas comment Giscard aurait voulu que les choses se préparent ou se passent pour qu'on arrive à voir les membres devant faire partie de la CENI. Moi, je crois savoir qu'avant 2011, c'était M. Abbé Apollinaire Malumalu. Je crois savoir que rien n'étant trop utile et trop bon, il y a toujours des failles quelque part. Mais si ces failles sont comparées à celles qu'il y a eu aux élections de 2011, je ne vois pas pourquoi les uns n'auraient pas voulu que pour recadrer les choses par rapport à tout ce que l'on décrit par rapport à 2011, qu'elle en revient quand même à, si pas tout le monde, mais quelques-uns de ceux qui ont animé, plutôt organisé les élections de 2006. Encore qu'il faille ici préciser, Kelly, que les élections en 2006 n'étaient pas l'affaire du seul M. Abbé Apollinaire Malumalu, celle de 2011 n'était pas l'affaire du seul Ngoï Moulanda, étant donné que le bureau de la CENI pour parler de 2006 et celui de la CENI pour parler de 2011 étaient constitués de toutes les couleurs politiques de la République, y compris les membres de la société civile, encore qu'ici il faille préciser que Malumalu est un membre de la société civile.
Baba Isaac Kalongi, vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental. Vous êtes journaliste indépendant. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans le Kassai Oriental? Baba Isaac Kalongi, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, on a un petit souci avec la ligne de Baba Isaac Kalongi. Alain Hirung va essayer de le retrouver. Entre-temps, nous, on va poursuivre notre émission de ce soir. Premier thème de ce soir à l'Équateur, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de ce vendredi n'a pas pu donner un élu pour diriger cette province. Aucun candidat sur les 25 postulants n'a pu avoir 53 voix requises. Le deuxième tour prévu pour lundi va départager Louis-Alphonse Daniel Koyagialo et Jean-Lucien Boussaï. Inosha Olinga, notre envoyé spécial à Mbandaka, nous en dit plus.
Il faut dire que tous les 104 députés validés sur les 108 que compte cette Assemblée provinciale de l'Équateur ont voté. Seulement, la CENI, dans les dépouillements, a déniché 16 bulletins nuls, ce qui fait près de 20% de perte de cette population électorale. Des 88 voix restantes, lui, Alphonse Kouyagialo, vient en tête avec 36, suivi de Jean-Lucien Boussa avec 22. D'autres candidats, comme Bolenge, a eu 13 voix, Ingele Ifoto, 7 voix, Isekimana. 5, Mondolé, 2, Lissassi, 2, José Makila, José Nguanda et Bangola, une voix chacun. Donc, sur les 25 candidats, 14 n'ont eu aucune voix. Boussa et Kouyagialo vont se retrouver lundi prochain.
Harold Bellarmé Badibanga, élection dans la province de l'Équateur. On n'a pas pu avoir un élu aujourd'hui, pour donc ce vendredi, pour diriger cette province. Le deuxième tour aura lieu lundi. Donc, ça sera une élection entre l'opposition et la majorité. Qu'est-ce que vous pensez d'abord du déroulement de l'élection d'aujourd'hui?
Bon, le contraire m'étonnerait, Kelly, compte tenu de la mastodontité du nombre de candidats. Pour un seul siège, on a eu plus de 20 candidats. Moi, je m'attendais au fait qu'on arrive à un second tour dans la mesure où les voix devaient être miettées. Il y a eu des candidats de la majorité qui se sont présentés sur la liste des indépendants. Il y a aussi une pluralité de candidatures pour ce qui concerne l'opposition. Ce qui est arrivé, d'abord, le déroulement lui-même est normal. Voilà pourquoi je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas eu d'inquiétude. Alors, par rapport à la seconde étape qui attend cette élection, c'est la guerre, de la bonne guerre, comme je l'ai toujours dit, une guerre sans merci. Étant donné que c'est une course entamée maintenant, c'est le moment pour la majorité d'affûter ses armes et pour l'opposition d'affûter les siennes pour que l'on n'assiste pas à des choses du genre « j'ai pas été préparé, ma victoire m'a été volée ». Je crois que c'est comme ça que ça va se passer. C'est le moment d'ailleurs pour que les états-majors politiques, l'opposition et la majorité arrive à comprendre que c'est maintenant qu'il faut prendre un bon dialogue avec les députés provinciaux, leur faire comprendre le bien fondé du choix porté sur ces candidats, sur le meilleur qui va l'emporter.
Jusqu'à Koussema, Kouyagialo, 36 voix, Jean-Lucien Boussa, 22 voix. L'élection de lundi se joue sur ces deux personnalités. Qui pensez-vous pourrait remporter cette élection?
Écoutez, l'écart reste très serré parce qu'en réalité, lorsqu'on dit que le candidat de la majorité présidentielle a obtenu 36 voix, l'opposition 12, nous pensons que l'écart en réalité n'est pas grand. 22 voix, voilà. 22 voix au regard du réservoir de voix qui reste. On a parlé d'abord de ces indécis, ces 16 voix. Donc les candidats qui pourra convaincre ces 16 voix peut également avoir une très bonne avance. Mais aussi, il faut prendre en compte le fait que tous les autres candidats qui ont obtenu quelques voix ne sont pas de la majorité présidentielle. Et donc, si les choses devraient se passer de manière rationnelle, on peut être rassuré que les candidats de l'opposition a bénéficié d'un peu plus de chance. Mais malheureusement, en politique, et particulièrement en politique congolaise, la rationalité n'est pas une donne assez importante. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, et donc on peut s'attendre à une élection.
Lesquels, par exemple, lorsque vous parlez des paramètres?
Des paramètres sociologiques. On connaît, il y a des paramètres ethniques, sociologiques et tout ça, mais il y a un autre paramètre non moins important, c'est l'argent. On connaît les méthodes, surtout de ceux qui sont au pouvoir. On ne sait pas ce qui va se passer entre aujourd'hui et lundi matin, et donc si ce sont des billets des banques qui sont distribués, donc on peut facilement arriver à un renversement de la situation. Mais c'est l'autre élément non moins important également, c'est la détermination qui s'est dessinée à travers les Équatoriens eux-mêmes qui se sont rendus compte que finalement leur province était devenue une jungle. Les deux prédécesseurs du gouverneur qui sera élu ont été tous révoqués. On se demande s'il n'y a pas une main noire derrière ces crises à répétition dans la province de l'Équateur, et cette fois, tout semble déterminé à a donné une autre image de la province de l'Équateur qui reste aujourd'hui l'une des provinces les plus pauvres du pays et le pays lui-même qui est le plus pauvre de la planète. Donc vous comprenez dans quel coin de la planète on est lorsqu'on parle de l'Équateur. Donc face à cet enjeu-là, il y a cet éveil de députés provinciaux qui sont face à leurs responsabilités.
Donc tout se joue sur la responsabilité même des députés provinciaux de se choisir une personne qui pourra bien diriger cette province.
Exactement, à moins que d'autres paramètres qu'on a cités ici rentrent en ligne des comptes.
Babelza Kalonji, vous êtes en ligne? Allô, Babelza Kalonji? Décidément, on a des problèmes sérieux avec la ligne de Baba Isaac Kalonji. Bellarmin Badibanga vient de nous rejoindre dans ce studio. Alors, il y a la société civile de l'Équateur qui a déclaré que les députés provinciaux de l'Équateur ont déjà échoué deux fois durant leur mandature, car ils ont deux fois élu des gouverneurs qu'ils ont ensuite eux-mêmes déçus, notamment pour la mauvaise gestion. Cette fois-ci, ils n'ont pas droit à l'erreur, Bellarmin.
Non, vous savez, Kelly, il s'agit des règles de gouvernance. Je ne sais pas si cette société civile aurait voulu que les députés provinciaux de la province de l'Équateur s'érigent en prophète pour savoir à qui ils ont affaire, pour voir qui viendra faire quoi une fois élu gouverneur de la province de l'Équateur. Mais moi, à l'encontre de cette position de la société civile, je me dois de jeter d'abord les fleurs sur ces députés provinciaux qui, une fois, ils seront rendre compte qu'un gouverneur n'arrive pas à mieux gérer la chose publique, n'arrive pas à faire ce que la population de l'Équateur, prise de manière générale, attend de lui, arrive, disais-je, ces députés provinciaux, à faire appliquer la loi, c'est-à-dire voter une motion de censure pour qu'il parte. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le défi reste intact, il reste majeur, quand on sait que ce qui ruine beaucoup plus cette province du point de vue de la déstabilisation, de la déstabilité, voulais-je dire, les gouverneurs qui viennent l'un après l'autre et qui partent, c'est un secret des polichinelles, il faut qu'on arrive à en parler tout haut. Il s'agit de ce clivage entre Nord Ubangi et Sud Ubangi. Les gens du Nord ne tolèrent pas trop qu'un gouverneur vienne du Sud et vice-versa. Alors, lorsque ceci...
Il paraîtrait que ce clivage est entretenu. Par Kinshasa.
Non, vous savez que c'est bien bon de dire c'est entretenu par Kinshasa, comme si dans le chef de ceux qui en parlent, Kinshasa, c'est le gouvernement, Kinshasa, c'est Kabila. Et Kinshasa, ça peut aussi être Etienne Tshisekedi, il vit à Kinshasa. Kinshasa, ça peut être aussi Vital Kamerhe. Kinshasa, ça peut aussi être tous ces politiciens de l'opposition. Je veux tout simplement dire, je ne veux pas revenir sur cette phrase, mais il faut que quand même que je revienne, c'est de la bonne guerre. Si le clivage est entretenu à Kinshasa, je ne crois pas que le chef de l'État est de l'Équateur. Je veux tout simplement dire qu'en politique, il n'y a pas de cadeau à se faire. Si Kinshasa estime, compte tenu de l'intérêt qu'il a à l'Équateur, la majorité estime qu'elle doit placer son gouverneur, c'est de la bonne guerre. Si l'opposition estime qu'elle doit placer son gouverneur, c'est de la bonne guerre. Mais ce que moi je proteste, ce contre moi je proteste, ce sont des antivaleurs de part et d'autre, qu'on fasse l'élection dans la transparence.
Merci Bellarmin. La réalisation me signale que Baba Isaac Kalonji est en ligne. Vous m'entendez?
Je vous entends bien, madame.
Voilà, Baba Isaac Kalonji, déjà, dites-nous, c'est quoi l'actualité dans la province du Kassa-Oriental avant de parler de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province de l'Équateur.
Kassa-Oriental, ce jour est en paix totale, parce qu'il n'y a aucun soulèvement, il n'y a aucun mouvement subversif à travers la province, tous les districts confondus, tous les territoires confondus. Nous sommes en paix et on se bat contre vents et marées pour émerger.
Voilà, nous sommes déjà dans le premier thème, Baba Isaac Kalonji. On est en train de parler de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, on n'a pas pu donner un élu pour diriger cette province. Il y aura un deuxième tour le lundi. Deuxième tour entre Louis-Alphonse Daniel Koyagallo et Jean-Lucien Boussa. Koyagallo qui a obtenu 36 voix, Jean-Lucien Boussa 22 voix. Quelle est votre lecture à vous par rapport au déroulement de l'élection aujourd'hui?
Je vous apprends, madame, que la province de l'Équateur est une entité territoriale décentralisée et à vocation piscicole, forestière et minière. cette province est riche en potentialité et à ce titre-là, ceux qui vont élire doivent prendre conscience de l'acte qu'ils vont poser en fonction du comportement des uns et des autres. Aujourd'hui, on révoque deux gouverneurs de cette province. Si les électeurs ne tiennent pas compte de ces éléments-là, ils vont bientôt aller aux élections pour désigner un troisième ou quatrième gouverneur. Ont-ils pris conscience d'abord des potentialités dont dispose la province et ensuite de l'intérêt que doivent vivre les habitants et les sortissants de cette province, en dehors des clans et des tribus et même des ethnies? C'est ça ma préoccupation. Deuxièmement, quand on va élire quelqu'un qui a déjà goûté au délice du pouvoir, vous savez ce que cela va faire avec les antivaleurs qui sont devenus règles de jeu chez nous. Donc, mon analyse, c'est que les uns et les autres prennent conscience que nous avançons vers les élections provinciales futures et que maintenant, élire quelqu'un pour satisfaire les besoins gloutons d'un groupe, c'est un non-sens.
Alors, Baba Isaac Alonji, on avait 25 candidats pour ce poste de gouverneur et vice-gouverneur. On peut dire que c'est là peut-être une raison pour laquelle on n'a pas pu avoir un gouverneur aujourd'hui. Peut-être que s'ils étaient moins, on pourrait déjà connaître le nom du nouveau gouverneur de la province de l'Équateur.
Mais au nom du pluralisme politique, ils peuvent être 30-40, mais le problème c'est celui-ci. En qui faire confiance et qui faut-il élire à ce moment précis? Quelles sont les conditions qui ont motivé le départ des deux premiers gouverneurs? Est-ce qu'on peut revenir sur les mêmes erreurs du passé, puisque les échecs font partie du succès, disent les Chinois? Est-ce qu'ils vont continuer à élire, pour que deux semaines plus tard, on puisse encore évoquer un gouverneur?
Merci Baba Isaac Kalonji, Giscard Koussema. On a suivi tout à l'heure l'analyse d'Harold Bellarmin qui a dit que les députés provinciaux, ils ne sont pas des dieux pour deviner ce que va faire le gouverneur qui sera élu ou le candidat qu'ils vont choisir pour diriger la province de l'Équateur.
Écoutez, je ne voudrais pas d'abord tomber dans les pièges de mon co-débatteur qui, lui, focalise ses interventions sur les individus ou sur les considérations politiciennes. Je ne suis pas ici pour défendre un camp politique ou une personnalité politique. Je fais des analyses personnelles et sur base des éléments que je considère rationnels. Alors, pour revenir à votre questionnement par rapport aux attentes, vous voulez parler des attentes de...
Non, je posais la question par rapport au choix du candidat. Pour Bellarmin, quand les députés provinciaux élisent un candidat, ils ne peuvent pas savoir que ce candidat va bien diriger ou pas bien diriger la province.
Mais écoutez, ils sont députés, ils ont été élus sur base d'un certain nombre de préjugés. Donc ils ont une certaine assise provinciale, ils ont des électeurs, ils vivent sur place, donc ils sont censés savoir pour qui ils votent. Et donc, on suppose également que chacun des candidats est passé à l'épreuve de feu. Donc, chacun devrait présenter son plan d'action. Donc, c'est en connaissance des causes, je voulais dire, qu'ils devraient orienter leur choix. Mais nous disons ici, par rapport aux éléments, justement, aux antivaleurs qui peuvent remettre tout ça en cause. J'insiste ici, si on doit rester dans de traditions purement idéologiques, donc étant tous de l'opposition, donc de la majorité de députés provinciaux, c'est l'une des assemblées provinciales où pratiquement tout le monde est de l'opposition. Donc la question ne devrait même pas se poser, donc c'est déjà un problème. Donc, on ne devrait pas se poser des questions. Deuxièmement, au regard des résultats qui viennent de se dessiner maintenant, donc, on suppose que le candidat de la majorité n'a plus d'alliance, n'a plus d'alliés, parce qu'il est face au candidat de l'opposition. Donc, si c'est l'idéologie qui regroupe les députés provinciaux, donc il devrait ramasser et rassembler toutes les voix des candidats de l'opposition et pour pouvoir battre les candidats de la majorité. Donc, nous disons que la situation semble à la fois être facile et difficile à la fois. Difficile parce que, au-delà des considérations dont on a parlé ici, la compétence, oui, mais est-ce que le politicien congolais, est-ce que c'est par conviction qu'il agit ou par le ventre. Nous pensons que la logique du ventre, ici, l'emporte sur toute autre considération rationnelle. Et si l'on doit parler du ventre, et celui qui a le ventre plein, ce n'est pas dans l'opposition, c'est au pouvoir. Et donc, celui-là a facilement des atouts, des appâts pour pouvoir donner quelque chose à ses ventres creux. Mais nous disons aussi, c'est cette logique-là qui l'emporte. Mais quand sera-t-il dans les jours qui suivent? Bon, s'ils savent qu'ils ont déjà, ayant échoué à deux reprises, et sachant que maintenant, ils n'ont plus de chance de gagner, même s'ils devraient se représenter, donc, c'est une espèce de décompte final pour eux. Et donc, ils se disent, c'est la dernière occasion pour nous, avec tous ces changements qui arrivent. Donc, celui qui se présente avec l'argent sera le bienvenu et on votera pour celui-là. Mais nous nous disons, si aujourd'hui, si par malheur ou par, disons, par bonheur pour celui de la majorité, il arrive à avoir des voix de candidats de l'opposition, est-ce qu'il devait en être logiquement fier? C'est la question.
Harold Bellarmère, réaction.
Non, vous savez, nous devons préciser des choses. Personne ne vient dans une émission d'analyse pour défendre des individus. Je réagissais à un concept, c'est Kinshasa qui tire le ficelle. Mais Kinshasa, c'est qui la personne? Alors, je dis que Kinshasa est un fantôme qui a plusieurs têtes.
Bon, souvent,
alors,
quand on parle de Kinshasa, on voit le gouvernement central.
Le gouvernement, mais qui dit que dans l'opposition, on ne peut pas aussi tirer de ficelle pour gagner, étant donné que ce qui se fait dans la province de l'Équateur, c'est de la politique, et la politique a ses réalités. Qui dit que dans l'opposition, tout comme dans la majorité, il n'y a pas de gens de part et d'autre qui veulent se retrouver et qui veulent diviser pour régner. Donc, c'est pourquoi je dis, tout en ne défendant personne ici, je voudrais que lorsqu'on utilise des termes comme cela, qu'on les conceptualise, étant donné qu'à Kinshasa, on a cette manière de penser que quand on parle de Kinshasa, c'est le gouvernement de la République. C'est pas pour dire que je défends le gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, je persiste et je signe sur cette affaire des députés provinciaux, j'ai dit que ce ne sont pas de prophètes. Giscard a mieux fait d'expliciter le fait que lorsqu'un candidat gouverneur se présente par devant les députés provinciaux, il présente un programme. Dans ce programme, ma foi, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Un candidat gouverneur ne vient pas dire, lorsque je serai élu gouverneur de la province de l'Équateur, je vais détourner, je vais semer la terreur, je vais faire ceci. Il va donner un chapelet de bonnes intentions, une façon de duper les électeurs et de les séduire. Et maintenant, lorsqu'il arrive à gérer, une fois les élus du peuple au niveau provincial se rendent compte que ce que le monsieur fait va en déphasage avec son discours des campagnes, ils se sont assumés. Je crois qu'en bon républicain, on devra d'abord leur jeter de fleurs dans la mesure où ils font ce que la Constitution leur demande. Et le reste, je l'ai bien dit, c'est une guerre et la vraie qui commence.
Baba Isaac Kalonji, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce nouveau gouverneur qui sera élu pour la province de l'Équateur?
Moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui peut arriver, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, parce que la crise est tellement forte que on peut nommer n'importe qui à la tête de n'importe quelle entité, il aura difficile à affronter les événements en face. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes maintenant, aujourd'hui, un pays PPDE. Et il ne faut pas l'ignorer en récitant le cadre macroéconomique, en récitant émergence, tout ça, c'est pour plaire, je ne sais pas qui. Mais est-ce qu'on peut espérer quelque chose lorsque le pays est à ce stade-là? Donc le gouverneur peut être élu, majorité ou opposition. Nous souhaitons bienvenue à ce gouverneur, mais il sera en face d'un problème. C'est la crise.
Merci Baba Isaac Kalonji, deuxième et dernier terme de ce soir. Il s'est ouvert hier jeudi au Grand Hôtel Kinshasa et c'est là pour deux jours, le tout premier forum économique international de Kinshasa. Le thème retenu pour cette première édition, croissance économique et gouvernance. Ce forum réunit d'éminentes personnalités nationales et internationales du monde économique et se propose de jeter les bases pour un développement durable au Congo. Et pourquoi pas de tenter de combler le fossé entre les richesses de la RDC et la pauvreté criante de sa population. Les attentes des organisateurs de ces forums, avec vous Daniel Tambizoni.
Le défi que la RDC se fixe, a dit le Premier ministre, c'est d'arriver à une croissance à deux chiffres d'ici 2014 et la bonne redistribution des fruits de cette croissance. Cela en vue de réduire la profondeur de la pauvreté que connaît la population congolaise. Matata Ponyo y croit.
La situation économique n'a jamais été aussi reluisante. Vous avez les taux de croissance du produit intérieur brut et le PIB par tête d'habitant a été multiplié par 3 en 10 ans. Et la monnaie, le franc congolais, est devenu très stable. Le budget annuel a été multiplié pratiquement par 20, alors qu'il était de près de 300 millions il y a près de 10 ans.
La Banque mondiale qui accompagne le gouvernement congolais dans ce programme se dit également optimiste. Cependant, il y a un prix à payer pour y arriver.
Il faudra à cet effet une croissance économique forte à deux chiffres sur au moins deux décennies, qui crée des emplois et réduit la pauvreté de manière significative. Pour cela, il faudrait un effort de longue haleine, car une amélioration significative des conditions de vie des populations va demander des efforts importants.
Le Forum économique international de Kinshasa est désormais un rendez-vous annuel pour parler développement de la RD Congo.
Merci Daniel Tsambinzoni. Jusqu'à Kosema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Quelle lecture vous faites de cette initiative du gouvernement congolais d'organiser ce forum économique pour le développement de la RDC?
Écoutez, j'ai d'abord un sentiment mitigé, un sentiment partagé entre le pessimisme et l'optimisme. Je commence tout d'abord par le pessimisme. J'ai l'impression que c'est un forum des trop. Parce que ce genre de réflexions ont eu lieu dans ces pays et on n'a même pas besoin parfois de faire un état des lieux à travers ce genre de forums pour conclure que nous sommes dans une économie exsangue. Donc les économistes purs, les puristes eux-mêmes disent qu'on ne devrait même plus parler d'une certaine économie congolaise. Ou si on admet qu'il y a une économie, alors il faut donner une autre définition à ce que l'on appelle
l'économie. Vous n'êtes pas d'accord avec le Premier ministre quand il parle d'une situation économique qui est réluisante?
Mais justement, parce que ces paradoxes-là, ces satisfaits-là, qui contrastent avec la réalité. Lorsqu'un Premier ministre vous dit que l'économie est plus jamais réluisante, les budgets multipliés par il y a 20 ans et tout ça, alors qu'en réalité, on sait que chaque année, on est plus pauvre. Je me demande si monsieur le Premier ministre n'a pas les statistiques internationales, n'a pas ces baromètres internationaux qui placent la République démocratique du Congo les tout derniers pays au monde depuis plus de 10 ans. Je me demande si le Premier ministre congolais, lui, n'a pas le temps d'aller voir que chaque jour les Congolais s'appauvrissent alors que lui vient avec des satisfaits. Quelle est cette économie qui est à 90% tenue par une économie informelle et que les 10% est partagé entre les étrangers? Quelle est cette économie où l'on sait qu'on est un des pays les plus corrompus au monde? Quel est ce pays où le rapport Doing Business nous classe dernier pratiquement au monde? Qu'il aille au marché pour voir qu'aujourd'hui même une purée de tomates est divisée par 4. Qu'il aille au marché pour constater que l'oignon est divisé par 4. Qu'il aille au marché pour voir qu'aujourd'hui il y a même de pain d'occasion. Donc des foutus, on les appelle comme ça. Qu'il aille au marché pour constater alors quel est ce satisfait qui vient aujourd'hui nous montrer qu'il y a une économie au Congo. Alors c'est une économie congolaise pour laquelle il faudrait trouver un mot. Il faut donc un état des lieux, et cet état des lieux existe. C'est pas des concepts du genre cadre macroéconomique, stabilité et tout ça, alors qu'on connaît le pouvoir d'achat des Congolais. Qu'il aille au marché chez les Indiens voir comment la monnaie se comporte.
Harold Bellarmé Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA. Est-ce que vous partagez le point de vue de Giscard qui estime qu'il n'y a pas une économie en RDC?
Madame, moi j'ai un principe, lorsque je parle des affaires de mon État, je n'y mets pas le sentiment. J'ai les pieds sur la terre et je ne me permets pas de commettre un péché. Le plus grave, c'est de mettre la charrue devant le bœuf. C'est vrai, c'est un secret des polichinelles, le Congolais souffre. Et le premier d'entre nous, le chef de l'État, a reconnu le fait que il y a des avancées, bien sûr, sur le plan économique, mais cela ne suffit pas. Il faut que ça se fasse voir dans le panier de la ménagère. C'est pas du nouveau, c'est ce que Giscard vient de dire. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il faut changer ce dont il vient de parler avec exagération? Bien sûr. Bien avant, pour que la situation économique suive après, ou bien il faut suivre graduellement le schéma pour que le résultat qu'il veut, qu'il pleure, vienne à long terme pour que l'on ne rechute pas demain. Il a évoqué les économistes, je les évoque moi aussi. Je dis, avant de stabiliser n'importe quoi sur le plan physique, il le faut d'abord sur papier. C'est en principe sacro-saint en économie. Sinon, ce que Giscard veut que le Premier ministre fasse aujourd'hui, ça sera d'un résultat éphémère. C'est-à-dire quoi?
Alors pour lui, c'est un forum de trop, puisqu'on a organisé des séminaires sur la relance de l'économie en RDC, pour le développement de l'RDC.
Il peut m'en citer combien depuis que l'année a commencé. Un seul fait est vrai, madame. Aujourd'hui, Giscard a cité ce qui ne va pas. Mais il n'a pas voulu aborder à dessein la question de la stabilité monétaire. Ça, comme il sait que c'est une évidence, on ne peut pas aborder cette question, il a sauté. Je veux tout simplement dire que lorsque nous parlons des affaires de la République, l'économie, j'apprends aujourd'hui dans cette émission que l'économie n'existe pas selon les économistes. Ça, c'est quand même grave. Je veux tout simplement dire que pour donner au panier de la ménagère son contenu dans le temps, et pour beaucoup de temps, il faut des études. Et les études, on n'en finit pas. Je ne voudrais pas ici tomber sur le terrain trop marécageux qui nous amène à comprendre que c'est un forum de trop, comme si nous devons tomber dans l'autosatisfaction pour dire on a déjà fait autant de forums, maintenant on attend des résultats. Alors que ce qui est fait, c'est pour pérenniser ce qu'il y a déjà eu, pour que l'élan que l'économie a déjà commencé à faire montre aille de l'avant. Il ne faut pas que les résultats dont on a besoin aujourd'hui, on les attende dans un an, dans deux ans. Ça peut encore attendre, mais il faut y aller pas par pas de manière solide.
Baba Isaac Kalonji, vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kassai-Oriental. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce premier forum économique international de Kinshasa? Et selon les organisateurs, ce forum va permettre de jeter des bases pour un développement durable au Congo et pourquoi pas de tenter de combler le fossé entre les richesses de la RDC et la pauvreté criante de sa population.
Je suis content, madame, de la tenue de ce forum qui est un élément plus pour la recherche de solutions à la crise économique congolaise. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ceux qui préparent l'accueil des intervenants et perdent leur état, c'est qu'on est en train de chercher le sexe des anges à l'issue de cette rencontre internationale, parce que les deux premières rencontres avec la Banque mondiale qui avait donné naissance à la mise en place de la COPIREP, n'a pas donné un résultat satisfaisant, si bien que le pays a été aligné PPTE, madame. Et ensuite, lorsque nous sommes alignés PPTE et nous avons 90% des chômeurs, je ne vois pas comment on peut parler de l'économie dans un pays foncièrement riche, mais fortement pauvre. Donc, mon embarras, c'est que, est-ce que ce ignome discours qu'on va tenir par les participants au forum, va-t-il donner des solutions aux problèmes qui se posent au pays concernant la dette extérieure, par exemple, la dette intérieure, concernant les prix, concernant le pouvoir d'achat, concernant le chômage? C'est là les grandes questions qui doivent être traitées et dont les résolutions ne peuvent pas aller dans les tiroirs tout droit, mais doivent être exécutées. Je n'ai jamais vu au Congo une assise qui donne des résultats et les résultats sont suivis par quiconque. Donc je crains fort qu'on ne tienne pas ce forum pour seulement prendre les omelettes, prendre les cafés et rentrer sans solution comme par le passé, puisque le copilote n'existe pas.
Merci Baba Isaac Kalonji. Jusqu'à Kousema, il nous reste moins de deux minutes pour mettre fin à cette émission. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce forum, de ce premier forum économique?
Rien du tout, madame.
Vous êtes pessimiste. Vous pensez que c'est un forum
de
trop?
Ce sont les faits. Lorsque le Premier ministre ouvre le forum lui-même par insatisfait, et il vous fait comprendre que le budget a été multiplié par 20, et donc le niveau de vie s'est multiplié par 20. Écoutez, il faut être un extraterrestre pour l'admettre, madame. Lorsqu'on sait que la situation va de mal en pis, et s'il y a un secteur qui souffre, c'est celui de l'économie, parce que il y va du quotidien des Congolais. La guerre, peut-être, c'est une partie. Mais sur le plan économique, c'est l'ensemble des Congolais. Et lorsque l'on sait que... J'ai pas le temps peut-être pour répondre à tout ce qui a été dit ici. On me demande quel rapport, quel forum. Mais la Banque mondiale, mais tous ces classements qui se font sur le plan international, je me demande si ceux qui sont avec moi dans ces studios n'ont jamais eu le temps de lire ni de comprendre cela. On va attendre quoi lorsqu'on y va déjà avec une satisfaction? On va chercher une croissance à deux chiffres. Aller expliquer à une dame c'est quoi une croissance à deux chiffres lorsqu'on sait qu'on vit avec moins d'un demi-dollar maintenant, madame, écoutez.
Merci, Giscard Koussema.
Le Premier ministre n'est pas tombé dans l'autosatisfaction. Il a dressé un bilan. Et ce bilan est connu. Il n'est pas une création de Matata. C'est reconnu même sur le plan international. Devant les faits, on s'incline, qu'on ne résiste pas. Ici, il y a des gens qui lisent. J'ai demandé qu'on me cite combien de forums ont été tenus depuis le début de cette année. On est incapable de m'en citer un. C'est pour dire qu'il n'y a pas pléthore de forums. Bien au contraire, la culture de la gouvernance, se rendre compte et dire ce qu'il y a. Et c'est là
merci,
le Premier ministre l'a bien dit. On a oublié, et j'ai fini par là. On s'est contenté de dire qu'une boîte de tomates se vend en quatre parties, mais on a omis de dire qu'il y a aussi des bidons d'huile qui se vendent. Et les Congolais achètent.
Merci Berlamé, Badi Banga, merci Giscard Koussema, merci Baba Isaac Kalonji d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo, c'était à la mise en onde. La réalisation était assurée par Alain Irung, au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.